بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفر ان الإسلام، nous allons terminer le chapitre concernant la situation des pécheurs le jour de Qiyama. On récapitule, on avait abordé le chapitre de la résurrection et l'au-delà en commençant par expliquer à Alam al-Hisab comment se passera la résurrection, quelles seront les étapes de la résurrection le jour du Qiyam. Et le premier chapitre qu'on avait abordé réellement après cette introduction, c'est la situation des pécheurs le jour de la résurrection. Quelle sera la situation? Non, tout d'abord on avait fait la situation des mouchriquins, si je ne me trompe pas. La situation des personnes qui n'adoraient pas Allah ou qui adoraient d'autres qu'Allah, et quelle sera leur destination, quel sera leur sort le jour de Qiyam. Le deuxième point qu'on avait abordé, c'est la situation des pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur, mais qui, malgré la présence de foi et de iman de leur cœur, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire des péchés. Et on avait expliqué que ce sont là des péchés que les personnes ont fait, des péchés qu'ils ont fait de manière continuel dans ce dunya, sans qu'il n'ait eu la possibilité ou sans qu'il n'ait pensé à demander tauba, à demander pardon à Allah Azza wa Jal, et qu'ils sont décédés en accomplissant ces péchés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus, ils ne sont pas revenus en arrière, n'ont pas demandé tauba à Allah Azza wa Jal. Quand leur ruh a quitté ce dunya, ils étaient toujours, c'était toujours de leurs habitudes d'accomplir tel et tel péché. Et on avait commencé par l'ostentation, on avait commencé par le meurtre, l'abandon de la salat, les cinq piliers, la zakat, celui qui ne jeûne pas le ramadan, celui qui ne fait pas le hajj. On avait parlé de l'intérêt, toutes les transactions qui sont haram. On avait parlé de la personne qui consomme de l'alcool, et avec l'alcool on peut rajouter tous les types de stupéfiants. On avait vu également, ah oui ça c'était un grand chapitre qui nous avait pris au moins 2 mois, celui qui ne respecte pas ses parents, celui qui ne donne pas les droits à ses parents, que ce soit le père ou alors la mère. On avait vu également un chapitre extrêmement important sur Al-Mutakabbirun, ceux qui font preuve de fierté et d'orgueil. Et en petite parenthèse, on a vu que c'est peut-être le seul péché qui est intolérable et inacceptable chez un musulman. D'avoir 1% d'orgueil, de fierté dans notre cœur. Et ça, quelle que soit la raison. Qu'on soit riche, qu'on soit célèbre, s'il y en a qui sont célèbres ici, je ne sais pas, je ne pense pas. Même si on a l'honneur, on a la reconnaissance de la société, on a un grand poste dans la société, on est reconnu. Ou alors, même si j'ai la science religieuse ou j'ai telle qualification, mais en aucun cas, j'ai le droit de me sentir supérieur à quelqu'un d'autre. On a vu également Al-Ruloul, non, Ruloul n'est pas fait, Sahibul Wajhain, hein, celui qui présente 2 visages, celui qui auprès de vous, hein, comme il dit en créole, il bat la main sur dos, et par derrière, d'un coup de couteau, hein, celui qui, avec vous, se comporte de manière très correcte et en votre absence, n'arrête pas de dire du mal sur vous. Et on pourrait joindre à ça un autre péché qui s'appelle An-Namima, qui colporte dans le but de rompre les relations entre les gens, dans le but de semer la zizanie. Et ça, c'est le travail de Shaitan. D'accord? On a vu également, je ne sais pas si vous avez bien expliqué ça, Rasibul Ard, celui qui vole de la terre, celui qui vole le bien de quelqu'un d'autre, hein, celui qui connaît que sa propriété s'arrête à un tel endroit, il a 100 mètres carrés, et il sait que la propriété de son voisin commence à partir de telle limite, hein, d'accord? Et que la personne, volontairement, prolonge sa clôture, il vole le terrain d'une autre personne. Bon, ça, c'est peut-être pas des péchés qui sont très courants, mais ce sont des choses à propos desquelles il y aura beaucoup de comptes à rendre le jour du Qiyama, qu'Allah nous protège. Et récemment, on a vu Ad-Dayyuth. Alors, Ad-Dayyuth, hein, la traduction en français, elle est très maladroite, hein, c'est presque insultant. Ad-Dayyuth, c'est celui qui tolère que l'adultère soit accompli sous son toit. Un père de famille qui sait pertinemment que sa fille sort avec un garçon, accomplit le zina, mais qui se tait, qui ne fait pas le travail de nahyun anil munkar, il n'interdit pas le mal. Et en plus, au-delà même, on n'est même pas arrivé à ce degré d'interdire le mal, c'est un homme qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne se sent pas ra'in, un berger, comme le prophète m'a donné la métaphore, il ne se sent pas berger responsable de son troupeau. Alors cette fille qui a l'âge de 14-15 ans, qu'Allah protège nos enfants, cette fille qui a l'âge de 14-15 ans a commencé à faire le zina. Et elle sait que papa est au courant. Papa sait que je sors le samedi
Et une fois, je vais dire qu'on va faire les devoirs hein, chez Fatima, chez Aïcha et tout. On prépare le bac et tout. Une fois, ça marche. Deux fois, ça marche. À un moment donné, on n'est pas naïf. On n'est pas bête. On ne vit pas dans un monde virtuel. Ou alors, si, on est peut-être dans un monde virtuel. Je ne sais pas. La fille, elle sait bien qu'à un moment donné, le papa n'y croit plus. Et que le père sait malheureusement comment se passent les choses. Mais ce père est tellement lâche, tellement froussard. Il n'a pas la crainte d'Allah dans son cœur qu'il ne veut pas froisser sa fille et qu'il laisse les choses aller. Et pire, il finit peut-être parfois par justifier, et certains parents même cautionnent les écarts de comportement de leurs enfants. Petite parenthèse, j'avais un parent qui parlait une fois, il disait qu'il était parti dans, on va dire, la galerie Leclerc. Mais non, ce n'est pas de la pub, je ne sais pas si ça existe encore. Il est parti à la galerie Leclerc, il a dit, maman me parle, hein, mais parti trave mon garçon en train de... On dit flirter. Comment on connaît ça? Moi, je ne connais pas le mot, d'accord? En train de flirter. Flirter, je ne sais pas comment ça se dit, le langage des jeunes. En train de, voilà, draguer, on fait des petits bisous et tout, de le coup, comme, hein, avec une fille musulmane, hein, je ne parle pas des... Hein, musulman avec musulmane. Je suis parti chercher mon garçon, Galerie Leclerc, un samedi après-midi, avec une fille musulmane. Et donc, je l'ai tiré par les oreilles, enfin, c'est-à-dire, je l'ai un peu brutalisé, je l'ai ramené chez moi. Et j'ai apostrophé cette fille, de bonne famille apparemment. Elle dit que si ton père savait, etc., tu vas voir, tralala, tralala. Et la maman se sent en position de force et elle fait un rapport au papa lorsqu'elle rencontre le père de cette fille. Alors là, Wallah Musta'an, c'est le papa qui est en colère avec cette dame. De quel droit on la cause comme ça avec mon fils? De quel droit on a fait de reproche? Oh, c'est pas ce moment, etc. Cette dame-là vient peut-être de protéger cette fille du zina. Elle a peut-être inculqué ce que le papa n'a jamais inculqué. Elle a peut-être fait comprendre à cette fille que ce que tu faisais, c'était haram, alors que peut-être ses parents-là ne l'ont jamais fait. Et ces parents-là, l'histoire, hein, je vous le rapporte comme on l'avait dit, ça fait pas mal de temps, dit que ces parents-là cautionnaient. Pour eux, c'était tout à fait normal. Alors ça, c'est Ad-Dayyuz. Ça, c'est Ad-Dayyuz. Ou alors pire encore, un mari qui sait que sa femme le trompe, au travail, je ne sais où, et qui laisse les choses aller, il ne veut pas perdre les enfants, je ne sais pas quoi, et qui ne prend pas les mesures qu'il faut. D'accord? Donc ça, c'était un péché qu'on a vu, Ad-Dayyuz. On a vu également Cheikh Zani, hein, une personne âgée qui continue à faire le zina. Quelqu'un a tel degré de mastie que même ce cheveu est blanchi, même les os, ils craquent, même le rhumatisme, il lève, il continue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit, Red Bull ou Viagra ou un mélange de tout ça, mais la machine, la locomotive, il tourne à fond. Et malheureusement, c'est pas bientôt le combustible, ce sera plus du charbon, ce sera plus d'électricité. Wallah musta'an, ce sera le feu de l'enfer qu'Allah nous en protège. On rigole, mais c'est pas, ça fait pas rire. Wallah musta'an, excusez-moi de présenter la chose comme ça, mais Cheikh Zani, et ça c'est un paradoxe, parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie les premiers signes de la vieillesse, la barbe qui blanchit, tout le monde a la barbe blanche ici. Enfin, ceux qui n'en ont pas, la barbe pousseront, mais s'ils... pousserait, ce serait blanc aussi. D'accord? Un petit peu de barbe blanc aussi, d'accord? Ça, c'est des signes de la mort. Quand on voit la barbe qui blanchit, c'est-à-dire qu'on entend les os qui craquent. De jour, beaucoup de jeunes aussi, les os, ils craquent. Les jeunes, ils font plus sport et tout, restent devant le oui, etc. Et on entend un namaz, les genoux, ils craquent comme nos grands-parents. Quand on voit les dents, on voit les cheveux blanchir et tout, ça, ce sont des premiers signes de Malik al-Mort, des premiers signes de la mort. Alors, quand quelqu'un sent ses forces diminuer, vous savez que l'être humain atteint le summum de sa force à quel âge? À 33 ans. Parce que 33 ans, c'est l'âge des gens dans le paradis. À 33 ans, vous êtes au top de vos facultés physiques et au top de vos facultés mentales également. Et après, ça se décline. On a qui décline à fond, mais peu à peu, ça se décline. 34, 35 ans, on a moins de force, moins de vitalité, moins de présence. D'accord? Et donc, quand nous sentons nos forces diminuer, on sent que le moment de rencontrer Allah est proche. Ben, le musulman doit prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'ils seront considérés de la même manière pour Allah Azza wa Jalla, celui qui toute sa jeunesse est resté dans l'adoration d'Allah, et celui qui a attendu les premiers signes de la mort pour revenir vers Allah, ils n'auront pas le même degré. C'est pour ça que parmi les gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, il y aura ce jeune qui aura passé sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Donc, ce n'est pas le même degré. Mais quand même, celui qui arrive à un certain âge, et il doit prendre conscience que le moment arrive pour retourner auprès d'Allah. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche de la tombe. Chaque jour qui passe, c'est un jour où j'ai plus de chances de me faire porter par tel camarade, tel cousin, telle nièce, tel neveu, tel proche qui vont me porter pour m'amener au cimetière. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité-là, on doit la réaliser. Mais celui qui avance dans l'âge, et malgré ça, reste dans les péchés, c'est vraiment quelqu'un qui est profondément inconscient. qui est profondément inconscient. C'est pour ça que le zina de la personne âgée, je ne dis pas que c'est plus grave, parce qu'on ne parle pas de qu'est-ce qui est plus grave et moins grave d'un guna kabira. C'est grave, c'est grave. Mais le zina, l'adultère d'un homme âgé, c'est beaucoup plus difficile à expliquer que le zina d'un jeune. Mais également, walmar'atul mustarjila, c'est un petit récapitulatif hein, de la plupart des péchés qu'on avait abordés, la femme qui imite les hommes. Alors dites-moi s'il n'y en a pas de nos jours. Wallahu musta'an. Également, ça, je ne sais pas, on a dû aborder très rapidement, al-hakim, celui qui a des responsabilités et qui ne se livre pas aux gens. Celui qui a des responsabilités de dîn, de la religion, mais qui reste en retrait, qui n'accepte pas la visite des gens. On a vu que Omar ibn Khattab, à son époque, lorsqu'il était calife, il avait nommé des ministres, on peut appeler ça comme ça, des ministres, des délégués dans chaque région. Et il avait ordonné à ces gens-là de ne pas mettre de portes à leur maison. Il ne faut pas qu'il y ait des portes. Il n'a pas juste dit que la porte doit rester ouverte, non, il ne faut pas qu'il y ait de porte. Dans quel but? Que la umma, que les gens, la population, puissent avoir accès à eux n'importe quand. Parce que ça, c'est une amana, c'est une responsabilité. Mais également, celui qui demande l'aumône alors qu'il a ce qui le suffit. On a vu également celui qui raconte, ça c'est très récent ça, celui qui ment dans ses rêves, qui dit que j'ai rêvé telle chose, telle chose, telle chose, dans le but d'avoir l'honneur, dans le but que les gens le considèrent. Et je discutais avec quelques amis dernièrement, on disait qu'effectivement de nos jours, le gros problème c'est que nous recherchons toujours des choses extraordinaires. Amène-nous quelqu'un qui dit qu'il a vu le prophète en rêve, qui est venu le voir, qui a fait ci, qui a fait ça. Là, on va dire, ah oui, ça c'est magnifique, ça c'est grandiose. Mais amener un hadith qui parle de l'au-delà, le malak al-maut, des punitions de la tombe, c'est comme si de rien n'était. C'est des ta'alim qu'on entend, et ça ne fait pas l'effet sur nos cœurs. On veut du news. On veut des trucs nouveaux, des trucs qui croustillent. Wallahu musta'an. Et dernièrement, on avait abordé un sujet délicat. La sorcellerie, sujet qu'on n'avait pas mis en ligne parce que c'était un peu chaud apparemment, c'était un petit peu, je ne dis pas violent, mais c'était quand même assez costaud, ce qui fait que bon, il y a des fois quand c'est un peu inadapté à tout public, on décide de ne pas propager. Donc la dernière chose qu'on a vue, c'était la sorcellerie, et l'essentiel du programme, c'était un appel, un i'lan à l'attention des personnes qui ont recours, ou qui ont eu recours, ou alors des personnes dont c'est l'habitude de leur famille d'avoir recours à telle personne. Ça peut être un non-musulman, ça peut être un musulman, religieux ou non-religieux, qui ont recours à des personnes pour éloigner leurs problèmes ou pour apporter bénédiction de leur vie ou pour avoir telle chose, même si ce n'est pas pour faire du mal, vengeance ou autre chose, mais ne serait-ce obtenir plus d'amour de son mari ou autre chose, etc., etc. Et donc on avait lancé un appel à ces gens-là que Allah est capable de pardonner tous les péchés. Et mesurer la portée de vos actes. Alors, je veux me venger de quelqu'un qui m'a tout pris. D'accord ? Imaginez que quelqu'un m'ait fait du mal et je veux me venger de lui. Donc, je vais avoir recours à un sorcier qui fera un sort et par l'autorisation d'Allah. Parce que rien ne se passe sans l'autorisation d'Allah. La personne sera détruite et humiliée. Alors, je serai fier. Chaque fois que je passe à côté de cette personne, je vais le voir triste, malheureux, malade, il est au chômage, il a perdu femme et enfant, etc., etc. Je serai heureux. Je vais ressentir le sentiment de vengeance sera assouvi. Mais attention, rappelons-nous que lorsque le prophète a dit que celui qui va voir ce genre de personne, et qui croit ce qu'il dit, cette personne a renié la révélation. C'est-à-dire la personne a fait le kufr. Et on a rappelé à ces gens-là, est-ce que cela vaut le coup de jouir de cette jouissance pendant 20 ou 30 ans? Et lorsque Malik al-Maut vient reprendre votre âme, il reprend votre âme comme l'âme d'un kafir. Lorsque vos proches vous posent de la tombe et que les anges viennent vous poser les questions, ce sont les mêmes anges que les kuffars qui viennent vous poser les questions et auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Est-ce que cela valait le coup de se venger de la sorte et de se retrouver ressuscité avec les kuffars parce qu'il a kafara bima unzila ala Muhammad? On avait surtout insisté là-dessus. Alors aujourd'hui, nous reste donc, à clôturer ce chapitre, très rapidement, Qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Ça, c'est le 21e péché qu'on aborde. C'est la personne qui accuse les femmes vertueuses. Une personne qui essaie de porter atteinte à la dignité d'une femme musulmane, qui essaie de mettre le doute dans le cœur des gens quant à la fidélité de cette femme. Et il essaie de faire entendre, de faire comprendre que cette femme-là n'est pas sérieuse, elle trompe son mari, elle a fait le zina. Ça, c'est ce qu'on appelle al-qadhf. C'est une accusation. Et quand on parle d'accusation, qadhf, c'est injustifié et infondé. Alors ça, c'est quelque chose d'abominable. Ça fait partie des péchés majeurs, des guna kavira. Et le fait que cette action, ça se diffère du riba. Ça fait partie des péchés qu'on fait avec la langue. Mais ce n'est pas comme le riba. Ce n'est pas comme le bohtan. Ce n'est pas comme le namima. C'est-à-dire, ce n'est pas comme la médisance. Ce n'est pas comme le fait de colporter des fausses nouvelles. Non, c'est beaucoup plus grave, là. Colporter de fausses nouvelles et tout, c'est comme le riba, le bohtan, c'est comme manger la chair de son frère qui est mort. Ça, on le sait. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Parce que là, on est en train de toucher à l'honneur d'un musulman ou alors l'honneur d'une musulmane. Et ce hadith-là, cette mise en garde nous fait comprendre comment, auprès d'Allah Azza wa Jal, le musulman et la musulmane a un izzah, hein, un honneur. Et il est du devoir de chaque musulman que de respecter l'honneur de son prochain. Alors jamais de jamais, quelqu'un doit s'aventurer dans une conversation où il ou elle lâcherait que telle personne, peut-être qu'elle n'est pas sérieuse, telle personne de son couple, hein, il faut voir si elle n'a pas des relations extra-conjugales. On n'a pas le droit d'émettre le doute. On n'a pas le droit de parler de ce genre de choses. Comme on l'a dit dans le Coran, « Inna alladina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati » Alors c'est quoi les conséquences, ceux qui font ça ?« Lu'inu fi dunya wal-akhirah » Ils ont la malédiction d'Allah. Et c'est quoi al-la'na? Al-la'na, c'est quoi? Al-ibti'adu an rahmatillah. Quand on dit qu'Allah maudit cette personne, c'est qu'Allah ne fera jamais raham de cette personne. Allah n'aura pas de pitié pour cette personne. Ils sont maudits par Allah dans ce dunya et dans le akhira. Et dans le akhira, qu'est-ce qu'Allah rajoute? Walahum azabun azim. Un châtiment gigantesque, un châtiment énorme, le jour du qiyam. Ça, c'est pour la personne qui s'est laissée aller à des commentaires et a fait comprendre que telle personne, que cette femme, elle n'est pas fidèle à son mari, c'est une femme adultère, c'est une femme qui fait le zina. Et Allah seul sait comment, parfois, dans des échanges, dans des disputes, hein, entre parfois même membres d'une même famille, ou alors entre femmes et tout, hein, on laisse parfois de telles phrases sortir uniquement de le but de nuire. On n'a pas fait que nuire, là. On a peut-être nuit à cette femme-là, mais on s'est enterré. On a encouru la malédiction d'Allah dans ce dunya et dans le akhira. Yawma, attention à ce jour où tashhadu alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli, c'est-à-dire de ce qu'ils avaient fait comme péché. Donc nous voyons comment Allah Azza wa Jal donne de l'importance à l'honneur du musulman et de la musulmane. Et le fait d'accuser une femme musulmane d'adultère, ça fait partie des as-sab'ul mubiqat, des sept péchés capitaux. Dans l'islam, on utilise un autre terme plutôt que capitaux. Péchés capitaux, ça fait plus l'Ancien Testament et la Bible. Nous, on appelle ça les péchés mubiqat, les péchés destructeurs, les péchés qui détruisent le musulman. Et parmi ces sept péchés-là, il y a le fait donc d'accuser une femme de ce qu'elle n'a pas fait. Et vous savez, l'Occident, hein, il se focalise très souvent, il fantasme presque sur la notion de lapidation. Quand on parle d'adultère, lorsqu'il parle de femme adultère, alors là, il ne se prive pas de diffuser des scènes de lapidation en Iran ou alors au Nigeria, je ne sais pas dans quel pays, il y a sur YouTube, d'accord? Et jamais, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, ils savent parfaitement c'est quoi le principe de la lapidation de l'islam, mais ils aimeraient bien et ils essaient, et ils le font. Ils donnent une certaine image au monde entier. Ils aimeraient que les gens croient que l'adultère, c'est lorsqu'un homme et une femme ont fait le zina, pas l'adultère, la lapidation, c'est lorsqu'un homme et une femme ont fait le zina, dans ce cas, la femme sera lapidée. Et pour eux, ils font abstraction totalement de la même punition pour l'homme. Maintenant, si on se dit que ce n'est plus, on ne le fait pas en khalas, on n'est pas des musulmans, bien sûr. Mais attention qu'ils soient justes dans ce qu'ils rapportent. Parce que là, ils aimeraient que les gens pensent que l'homme a le droit de faire le zina, tandis que la femme, si elle le fait, elle sera lapidée. On n'entend jamais parler de lapidation des hommes à travers les médias. On parlera toujours de la lapidation des femmes. Et ça fait partie de la désinformation véhiculée, Allah musta'an, par les médias. Et regardez comment, et puis, quand on montre des scènes de lapidation. Hein, alors, comment est-ce que ça se fait que cette femme, allez, même ce monsieur était l'accusé. De quelle manière? Qu'est-ce qui fait qu'on a su qu'ils ont fait le zina? Est-ce qu'il y a une possibilité de savoir? Est-ce que si quelqu'un voit un homme et une femme ensemble dans la rue, dans le bus, dans une voiture, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait le zina? On n'a pas le droit. Est-ce que si on voit un homme entrer dans la maison d'une femme et fermer la porte à clé, est-ce qu'on peut déduire qu'ils ont fait le zina? Non. Si je dis qu'ils ont fait le zina, je suis pécheur. Si on voit un homme et une femme, pardonnez-moi, dans un même lit, on ne peut même pas dire qu'ils ont fait le zina. Les conditions sont tellement drastiques, sont tellement précises pour pouvoir accuser quelqu'un du zina qu'il est impossible, quasiment impossible. Il faut avoir vraiment vu la relation entre l'homme et la femme. Et combien de personnes il faut? 4 témoins. Alors là, qui peut un jour accuser? C'est quasiment impossible. Lorsqu'il y a, dans les pays où ça se fait, c'est des gens qui ont un tel degré de taqwa, de crainte d'Allah, qu'ils vont se dénoncer. Ils vont voir le hakim, le qadi, dit que voilà, on a fait exactement comme le sahaba, ou cette sahaba, cette femme sahaba qui était venue voir une fois le prophète sallam, elle dit que « Ya Rasulallah, j'ai fait tel péché, j'ai fait le zina, Ya Rasulallah, tahirni, purifie-moi, prophète d'Allah. » Ce n'est pas des gens qui ont rapporté, non. Il n'y a jamais eu des trucs comme ça que les gens rapportent, non. C'est les gens qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a intérêt à donner au prophète une solution. Et le prophète sallam avait tellement de raham de son cœur, de pitié pour cette femme, le prophète sallam ne voulait pas que cette femme subisse le châtiment. Le prophète sallam a dit à cette femme, tu attends un enfant. Cette femme a dit oui. Le prophète sallam a dit que donne naissance à ton enfant et ensuite tu reviendras. On a déjà expliqué ça il y a quelques temps. Et le prophète sallam avait l'espoir que cette femme demande tawbah à Allah et elle ne revienne plus. Et cette femme a eu son enfant et quand elle a eu son enfant, elle revient auprès du prophète sallam avec l'enfant dans sa main du prophète d'Allah. Maintenant l'enfant est né, au prophète d'Allah, purifie-moi. Regardez le degré de iman de cette femme-là. Elle aurait pu rentrer chez elle, demander tawbah, et dire que voilà, on tourne la page, c'est fini. Mais non, elle a un tel degré de taqwa, de crainte d'Allah, qu'elle sait pertinemment que si elle rencontre Allah le jour du Qiyam avec ce péché, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et quand je vois des jeunes, Allah musta'an, sur Facebook, qui se vendent de leurs exploits, le fait qu'ils sortent avec un tel, et qu'ils sont en couple avec un tel, en fait, le fait de dire qu'ils sont en couple, bon, ça n'engage rien du tout. Mais quand il y en a qui se vendent de leurs aventures, je me dis que, est-ce que ces jeunes-là, ils ont compris c'est quoi le poids du zina? Est-ce qu'ils ont compris quelles sont les conséquences de ce péché lorsque le prophète dit que lorsqu'un homme fait le zina avec une femme, le iman ne reste pas dans le corps de ces gens-là. Le iman quitte le corps, tellement c'est quelque chose d'ignoble. Le iman ne peut rester dans un corps qui est en train de faire le zina, qu'Allah nous protège. Donc, cette femme revient au prophète avec ce bébé. Le prophète dit que cet enfant est encore petit, elle a besoin de toi, elle a besoin de boire avec sa maman. Nourrit cet enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et longtemps après, cette femme, elle revient, elle a tellement yaqeen que si elle est purifiée dans ce dunya, Allah lui pardonnera ses péchés. Et à la fin, à la fin, à la fin, le prophète, il voulait que cet enfant devienne autonome, qu'il mange tout seul et tout. Et à la fin, le prophète était obligé d'appliquer ce qui lui a été révélé par insistance de cette personne. Donc nous voyons que ce n'est pas ce que les Occidentaux, c'est pas comme les Occidentaux le présentent, ce ne sont pas les fantasmes qu'ils essaient de voir dans la relation homme-femme dans l'histoire. Et vous savez, mes chers, on va terminer avec ça. On peut dire que le chapitre est terminé. Lorsqu'on parle d'honneur, là on est en train de parler de l'izza de la femme de l'islam. Lorsqu'on parle d'honneur, alors dites-moi, une analyse tout à fait objective, on ne parle pas de politique, d'accord? Mais quand on entend ce qui se passe ces derniers temps, et je ne citerai rien, tout le monde écoute, tout le monde lit, tout le monde sait ce qui se passe. Quand vous voyez quel est le rôle de la femme, qu'est-ce qui se passe avec les femmes, comment elles sont utilisées parfois comme objet, comme, yani, elles n'ont même plus le statut d'humain. C'est comme si que l'homme a le dessus et l'homme l'utilise pour assouvir ses besoins. Souvenez-vous de tout ce que vous avez entendu depuis quelque temps, pas uniquement la grosse affaire, même en Amérique. Un ancien acteur qui est sénateur maintenant, regardez ce qui lui est arrivé aussi. Un autre député de la majorité, on ne parle des Américains parce que ça ne nous concerne pas, d'accord, un autre député de la majorité, même genre de problème, et ailleurs, dans d'autres pays. Et puis dites-moi, qui est-ce qui donne de l'honneur, qui est-ce qui donne une place de reine à la femme de l'islam, à la femme, dans toutes les communautés? Tellement nous respectons nos épouses, ou nos mères, ou nos sœurs, ou nos nièces, etc., qu'on ne tolère pas une parole déplacée à leur encontre. Alors maintenant, il y en a, quand on voit ce qui se passe, là on comprend qui donne vraiment l'honneur aux femmes dans l'islam. Et pour clore le sujet, regardez comment l'islam, subhanallah, a élevé la place de la femme. Lorsque notre prophète, alayhi salatu wassalam, il explique aux sahaba, qui quelques années avant étaient des barbares, ils étaient dans la jahiliya, d'accord ? Il disait que celui à qui Allah a donné deux filles, et qui accepte ses filles, et qui leur donne une bonne éducation, jusqu'à ce qu'elles se marient, alors elle, cette personne sera auprès de moi le jour de Qiyama comme mes deux doigts. Alors que quelques années avant, les Arabes, lorsqu'ils voyaient que leur femme a donné naissance à une fille, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Umar ibn al-Khattab, rien ne raconte. C'est une des choses qui m'a le plus attristé. Quand je pense, je repleure. Il dit que j'avais une petite fille. Et donc, comme c'était la tradition, je ne pouvais pas la garder. Et donc, je l'ai emmenée avec moi pour l'enterrer. J'étais en train de creuser la tombe. Et ma fille me voyait et elle pensait que je jouais. Et elle m'aidait. Et lorsqu'il y avait de la terre dans ma barbe, elle enlevait la terre de ma barbe. Et cette fille qui m'aimait autant, je l'ai pris de mes deux mains, je l'ai mis dans ce trou et je l'ai enterrée vivante. Ça, c'était les Arabes fil jahiliya. Et quelques années après, quand l'islam est venu, le prophète والسلام, a mis fin à ces pratiques et a dit que celui à qui Allah a donné deux filles et qui les éduque correctement, ses parents, ce papa-là, se rapproche de moi comme ses deux doigts le jour du Qiyam. Et regardez la justice, l'équité qu'il y a de le dîn. Si moi, papa, de mon vivant, papa rentre dans les fatwas, de mon vivant, j'ai un garçon et une fille. Je décide de donner un immeuble, une maison à un de mes enfants. Je dois en faire de même avec l'autre. C'est-à-dire, on ne parle pas de partage, on parle de donation. Dans la donation, il faut qu'il y ait l'équité absolue. C'est 50-50. Je ne peux pas favoriser un enfant dans les donations. Pour l'héritage, c'est autre chose. Al-mirath, c'est autre chose. Dans l'héritage, effectivement, le garçon a deux fois la part de la fille. Mais il y a une raison derrière cela. Si le garçon a le double de la part, c'est parce que le garçon a toutes les responsabilités. C'est-à-dire que dans le couple, l'homme a toutes les responsabilités. L'homme se doit de subvenir aux besoins de toute la famille. Et moi, mari, je n'ai pas le droit de demander à mon épouse, mois de mai, c'est moi qui a fait les courses, mois de juin, c'est toi qui fais les courses. Ou alors, mois de mai, c'est moi qui a payé l'électricité, mois de juin, c'est toi. Ou alors, le loyer de 800 euros, je mets 600, tu mets 200 parce que toi aussi tu travailles. Non. Un mari n'a pas le droit de demander à son épouse de participer aux choses qui sont intrinsèques, qui sont dharouriya, les choses nécessaires à la vie de famille. C'est pour ça que dans l'islam, l'homme a une part supérieure à la femme. C'est parce que la femme, ce qu'elle a, c'est dans sa poche. On pourrait dire c'est pour son ventre. C'est que pour elle. Elle fait ce qu'elle veut de ses biens. Elle peut le fructifier, elle peut le placer, elle peut investir, elle peut donner, elle fait ce qu'elle veut. Et son mari n'a pas le droit sur un centime de ses biens. Tandis que l'homme, son bien, son argent, c'est pour nourrir sa femme, c'est pour nourrir sa famille, bi'idhnillah, c'est le devoir qui incombe à l'homme. Aujourd'hui, dans la société, c'est différent. Je vais raconter cette histoire une fois d'un ami qui s'était converti, alhamdulillah, et cette personne vient me voir, il travaille, un bon poste, sa femme, un très bon poste également. Il dit que voilà, oui, ma femme, elle ne comprend rien. Et il venait de se convertir, mais grosse envie de comprendre la religion, mais ce point-là, peut-être qu'on avait oublié de l'expliquer, dit que voilà, ma femme ne comprend pas qu'il faut qu'elle participe de le loyer. Là, j'ai dû l'expliquer que dans notre vie, ce n'est pas comme ça. Avant, peut-être, dans votre vie antérieure à l'islam, ou chez vos parents, frères et sœurs, ça se passe peut-être comme ça, mais dans notre dîn, toi, mari, c'est toi qui souviens aux besoins de la famille. Ta femme n'a pas, tu n'as pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Donc là, on comprend bien, on rétablit un peu les faux discours qu'il y a dans toute cette fausse médiatisation qu'il y a à travers Allah Musta'an, à travers les médias, cette campagne de désinformation. Également, regardez, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam explique que éduquer la fille jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et en commentaire, les ulama disent que c'est jusqu'à ce que ses filles se marient. Et dans le mariage également, regardez le respect qu'on donne à la personne, à la fille. Un papa qui reçoit une demande de la part d'un garçon et qui dit à sa fille, voilà, tu te marieras avec Abdurrahman. C'est comme ça. Ce mariage est khidaj. Ce mariage ne peut pas être valable s'il n'y a pas eu l'accord, le consentement de la fille. Il n'y a pas, ça c'est également les Occidentaux, hein, ils fantasment dessus, sur les mariages forcés. Mais non, si la fille n'a rien dit, ce n'est pas possible. Maintenant, si elle reste silencieuse, ça veut dire qu'elle est d'accord. C'est-à-dire que c'est la honte qui fait qu'elle le dit. Parce que si le papa a mené un toile d'accord, tout de suite il va dire non. Ah non, il ne marie pas avec ça. Jamais. Elle dira non. Mais si elle est d'accord, de nos jours, est-ce qu'il y a encore des filles en Amsterdam qui ont autant de pudeur, hein? Si elle ne dit rien, là on considère qu'elle est d'accord. Mais il faut absolument demander le consentement de la fille. Je répète, on dirait qu'il y en a qui n'ont pas compris. Un papa qui va voir, qui dit à sa fille que voilà, Mohamed te demande en mariage. La fille dit non, voilà, c'est non. La fille dit oui, je suis d'accord, c'est ok, ils peuvent se marier. Mais si la fille ne répond pas, papa dit est-ce que tu te maries avec Mohamed? Elle rougit ou elle baisse sa tête, elle ne dit rien. On peut en déduire qu'elle est d'accord. Parce que si elle ne voulait pas, elle aurait manifesté son mécontentement. D'accord? Donc, l'autorisation, le consentement est impératif dans le mariage. Également, regardez dans notre din, la facilité, on va finir avec ça, le talaq. Le talaq, c'est certainement une action qui n'est pas aimée par Allah Azza wa Jalla. C'est la pire des choses qui est autorisée. Mais vous savez, dans les situations de conflit, hein, pour lesquelles on ne trouve pas de solution, le talaq parfois peut être un rahmat. Peut-être une porte de sortie. Quand on voit vraiment que les deux personnes sont opposées, éducation tellement différente, et des habitudes tellement différentes, conception des choses différentes, qu'on a essayé des médiations, que ça ne marche pas, et qu'ils vivent un cauchemar, que leurs enfants vivent un cauchemar, s'il y a des enfants, ben parfois le talaq c'est une porte de sortie pour que chacun puisse peut-être refaire sa vie. Alors que dans d'autres religions, le talaq, le divorce est interdit. Ça c'est quand même une porte de sortie pour la femme si son mari est quelqu'un qui n'est pas comme elle le pensait avant le mariage. Et même, on pourrait aller même plus loin, une femme qui voit son mari avoir un comportement odieux, hein, une femme qui se fait battre par son mari, ou quelles que soient les raisons, la femme peut aller voir un mufti et dire au mufti que voilà, pour telle, telle, telle raison, je demande le talaq. Et si le mufti trouve la raison valable, le mufti est en droit de rompre le mariage sans même l'accord du mari. Bon, les conditions, ça, vous voyez avec le mufti, bien sûr. Donc, on est en train de rappeler un petit peu tout ça pour qu'on comprenne comment l'islam donne une place royale à la femme. Le prophète, à travers ses récits, les sahabas nous font bien comprendre également que la première madrasa, la première école, c'est la maison avec la maman qui est à la tête de l'éducation des enfants. Regardez, on finira avec ça, le prophète et à Hudaybiyah, il a un problème, ils ne vont pas faire l'umrah, les sahabas ne sont pas trop contents, ils ne veulent pas se raser la tête. Le prophète va voir son épouse, il dit qu'est-ce qu'on fait? Et son épouse dit voilà, tu fais devant eux, tu te rases la tête et tu égorges l'animal devant eux et ils vont te fuir. Le prophète fait mashfira avec qui? Avec sa femme. Lorsque le wahir vient sur le prophète accourt voir Khadija et Khadija va le réconforter. C'est-à-dire le prophète donnait de l'importance à l'opinion des femmes. Et à notre époque, au XXe siècle, en quelle année les femmes ont le droit de vote? En quelle année? Dites-moi parce que je ne sais pas. Je n'ai plus en tête la date, mais ça date, c'est juste après la Deuxième Guerre, je crois. Hein. Ça ne date pas depuis Bonaparte, hein, ni depuis Louis XVI, Louis XIV. Hein. Ça date de peut-être 50 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a que jusqu'à maintenant, on considérait que l'opinion de la femme n'était pas importante, qu'elle n'était peut-être pas... Elle n'avait pas toutes les autant de facultés qu'un homme, que son opinion ne devait pas influencer sur la vie de la société. Alors que le prophète, pour une décision aussi importante que le sol de Hudaybiyah, il fait mashwara avec son épouse et il va suivre le mashwara de son épouse. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, le prophète, alayhi salatu wassalam, donnait des wasiyas, des conseils aux musulmans, craignez Allah dans vos épouses. Agissez correctement avec votre femme, avec vos épouses. Qu'Allah nous accepte, nous donne la compréhension de ce principe qu'on a vu aujourd'hui et qu'Allah il fait en sorte que chaque personne ici mariée ait un bon comportement avec son épouse, considère sa femme vraiment comme on dit, vraiment sa moitié, lui donne tout l'honneur qui lui revient et par le biais de ce comportement correct envers cette femme, Inch'Allah, qu'Allah renforce le muhabba et qu'Allah protège les familles du talaq, qu'Allah protège nos enfants du zina et de tous ces péchés qui guettent, Wallah Musta'an, nos enfants, avec les dangers de la mondialisation, les péchés sont partout. Vous cliquez, vous avez un péché, vous sortez, vous avez un péché, Wallah Musta'an, qu'Allah franchement protège nos enfants, nous protège nous-mêmes. Amin. Donc là, on peut dire qu'on a complété le chapitre sur les péchés. Il restait quelques péchés, mais c'est des points qu'on avait déjà abordés, comme le fait de laisser les pantalons au-dessous de la cheville, ça on avait déjà abordé dans d'autres circonstances. Également, celui qui fait des faux qassam, ça, peut-être qu'on avait parlé également, celui qui jure par Allah pour des choses qui ne sont pas vraies, mais on pourrait dire qu'on a terminé le chapitre, et Inch'Allah, mardi prochain, hein, ou alors dans deux mardis, on va commencer une étape beaucoup plus, un peu plus enchantant, hein, on espère qu'on fera partie de cette catégorie de personnes, al-atqiya ou min al-mu'minin, les muttaqin, quand ils seront présentés à Allah Azza wa Jal. On a vu les pécheurs, quelles seront les conséquences des péchés. Maintenant, ceux qui avaient la crainte d'Allah dans leur cœur, qui ont vécu selon les ordres d'Allah, quelle sera leur récompense et comment ils seront présentés le jour du Mahshar. Donc ça, c'était pour le programme d'aujourd'hui. Un petit rappel, sujet en dehors de tout ça, vous avez certainement vu l'affiche à l'extérieur concernant le Moussa Baqa, le concours international pour la promotion des connaissances religieuses. Alors, en deux mots, parce qu'on a fait une présentation hier au Latanier, pour la zone nord, mais le message n'avait pas bien passé, les gens n'avaient pas compris que c'était là-bas, ou alors je ne sais pas, ça n'a pas marché. Donc, demain, il y a un programme identique dans le sud, donc ça sera Saint-Pierre pour hommes et dames. On va bien expliquer les conditions du concours, mais en deux mots, vous êtes au courant du Moussa Baqatul Qur'an, le concours du Qur'an qui est organisé tous les ans, qu'on appelle également, le vrai nom, c'est Moussa Baqatul Malik Abdel Aziz. C'était à l'initiative du roi Abdelaziz, rahimahullah. Et l'île de la Réunion participe à ce concours depuis 20 ans ou 30 ans. Mais ça fait très longtemps. D'accord ? Vous voyez les premiers candidats qui ont gagné, ils ont 45, ils ont pris de 50 ans. Donc c'est quand même, ça fait longtemps que la Réunion participe. Et il y a deux ans même, il y a eu un candidat qui a remporté le premier prix dans la catégorie de Khamsa Ajza de 5 sphères. Bref. Donc, le même ministère des affaires religieuses à Riyad organise donc d'autres types de moussabaqa, d'autres types de concours. Et parmi ces concours, il y a des concours réservés aux imams aussi. Bon, ça, on n'a pas eu encore accès pour l'instant. Mais il y a un concours beaucoup plus accessible. C'est pour tout musulman et toute musulmane âgée de plus de 20 ans. Et c'est un concours qui fait appel à nos connaissances générales. Bon, c'est vrai que quand on voit la teneur des questions, on dit que c'est plus de la connaissance générale, c'est de la connaissance chirurgicale. C'est clair, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours accessible, mais l'objectif de ce concours, et quand on parle de concours international, c'est-à-dire que c'est le même concours qui a lieu dans beaucoup de pays du monde. Alors moi, ce que je connais, c'est que l'Afrique du Sud, bien sûr, Maurice, Madagascar, Comores, etc., etc. Mais vous savez que nous sommes gérés par le consulat d'Arabie à Pretoria. C'est-à-dire que lorsque nous devons aller au Umrah ou au Hajj, nos visas sont faits par qui ? Par le consulat d'Arabie à Pretoria. Et donc, eux, ils gèrent à peu près 16 pays. Et donc, tous les pays qui sont gérés, la plupart des pays qui sont gérés par Pretoria, donc, hein, ils ont à participer à ce concours qui est fait en trois langues, en français, en anglais et en arabe. Et ce sont exactement les mêmes questions qui sont posées dans les autres pays. Donc, l'objectif, c'est quoi ? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste un jeu, je vais cocher ABC, ABC, et puis je vois si je vais gagner. Non. L'objectif à travers ça, c'est quoi ? C'est que chaque musulman et chaque musulmane ouvre un livre. Peut-être pour la première fois de leur vie, ouvre un livre sur la religion et fait des recherches sur sa religion. C'est certes, si on est arabophone, c'est plus facile. Il y a des tonnes et des tonnes de livres. Si on est anglophone, c'est facile. On pourrait dire que 50% des ouvrages en arabe sont maintenant traduits en anglais. Quand on est francophone, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je tiens à vous rassurer que les questions sont accessibles à une personne qui fait des recherches. Et dans quel livre chercher ? Essentiellement dans les livres de dogme islamique, dans les livres de aqida. N'allez pas chercher dans les récits des compagnons, vous allez peut-être trouver quelques réponses, mais l'essentiel des réponses se trouve dans les livres de aqida, de dogme islamique, de croyance islamique. Et dans quel genre de chapitre ? Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a fi Sahaba, les croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Ahlul Bayt, sur les proches, sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, vous trouverez toutes les réponses. Maintenant, il faut trouver le bon livre. Si ici, il n'y en a pas, dans les deux librairies à Saint-Denis, mais commandez depuis la France. À Lyon et à Paris, il y a d'excellentes bibliothèques où ils vendent énormément de livres en français. Je suis persuadé qu'on peut trouver un ouvrage sur le dogme islamique. Et si vous avez un chapitre sur les Sahaba, assurément, vous trouverez les bonnes réponses. Et puis l'autre possibilité, c'est le fameux mufti. Quel mufti ? Vous ne connaissez pas ce mufti ? Il vient d'Amérique. Mufti Google. Le fameux mufti Google qui donne souvent réponse à tout. Je pense également que certaines réponses, on peut les trouver en tapant les textes sur Google. Parce que souvent, ce sont des citations Et on peut trouver l'auteur des citations si les phrases, si les textes ont été répertoriés. Donc, le concours se présente donc sous cette forme, un formulaire de 20 questions, ce qu'on appelle un QCM, un système un petit peu anglophone. Question à choix multiples, par exemple une question, vous avez 3 réponses, vous devez cocher la bonne réponse. Et celui qui, Inch'Allah, a 20 sur 20, ben, ce sera considéré comme une copie qui a réussi. Et donc, nous, on procédera à la correction vers le 10 juillet. On peut aller un peu jusqu'à le 20 juillet, ce n'est pas grave. Et les copies qui ont 20 sur 20, Inch'Allah, seront transmises au ministère Riyad. Et eux, ils procéderont indépendamment de nous. Hein, c'est eux qui prennent le relais. Eux, ils feront un tirage au sort de 10 gagnants. Et le premier et le second auront une invitation, Inch'Allah, pour le Hajj en tant qu'invité du roi. Et puis le reste, ils auront des cadeaux. Mais ça, c'est de rien, il n'y a pas nécessité d'en parler. Mais comme on dit, le but principal, c'est que chaque musulman puisse ouvrir un livre et faire des recherches sur son dîn. Et comme on l'expliquait hier, ça c'est un test. On nous a donné ce concours à La Réunion pour la première fois. C'est un essai. Ils veulent voir est-ce que nous avons le potentiel pour gérer un concours international. Et on m'a promis que s'il y a un bon retour, il y a un bon taux de participation, ils nous donneront le concours tous les ans. Ce sera un acquis, exactement comme le concours de Coran. Et on a besoin d'avoir ce genre d'acquis. Vous savez, depuis l'année dernière, alhamdoulilah, on a la chance d'avoir les diplomates qui viennent donner les visas à La Réunion pour le Hajj. Ça, c'est un acquis également. Cette année, Inch'Allah aussi, ils vont venir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Et là aussi, c'est un test, c'est un pas qu'ils font. Ils nous donnent cette chance. On doit faire en sorte que, Inch'Allah, on répond présent. On fait en sorte qu'il y a un maximum de personnes qui participent et qui apportent de bonnes réponses. Et Inch'Allah, on aura ce concours tous les ans. Et vous avez l'objectif final, c'est quoi? Inch'Allah. Moi, j'aimerais tellement que d'ici 2 ans ou 3 ans, on ait gagné un peu la confiance, que nos relations deviennent un peu plus claires avec le consulat et qu'Inch'Allah, il soit d'accord pour nous envoyer d'ici 2 ou 3 ans, qui ça? Un des imams de Haramain. Et c'est quelque chose de possible. Au consulat, on m'a fait la promesse que si on monte un dossier correctement, ils acceptent. Et il y avait un des imams de Haramain qui était en Afrique du Sud il y a 2 mois et j'ai appelé le responsable du consulat. Il me dit que là, je suis à l'aéroport, je viens de déposer tel imam. J'ai oublié son nom. C'est un jeune imam. C'est pas moi qui ai un note. J'ai oublié son nom. Il m'a dit que, je dis, cher, on aimerait tellement le recevoir à La Réunion, nous aussi. Il m'a dit, ben, faites la demande. Faites la demande. Il y a quelques papiers à amener, quelques garanties, tout et tout. Moi, certes, il y a une relation avec la préfecture et tout ça. C'est quelque chose de très, très administratif. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. D'ailleurs, le dossier de Sud-Est, on avait lancé il y a quelques années. Ce n'était pas quelque chose de connu. Et, bidnillah, j'avais personnellement rencontré cher à Makkah, et il m'a dit que s'il vient à Maurice, il viendra à La Réunion. Et puis, cher, n'est pas venu. Mais ce sont des choses réalisables. Et si on répond présent de ce genre de choses, on montre qu'on a le potentiel, on répond présent qu'on nous sollicite. Inch'Allah, j'espère que dans quelques temps, on pourra entendre un des a'immas de Haramain sur un de nos mimbars à La Réunion lire pour nous les versets du livre d'Allah Azza wa Jalla. Donc, mes chers frères, pour revenir à ça, si vous avez Internet chez vous, donc, il y a le site www.concourshajj.jimdo.com sur lequel vous pouvez télécharger les questions, les imprimer et y répondre. Et ensuite le transmettre au responsable de chaque quartier. Pour le quartier de Montreuil, c'est Mohamed Bagat qui est responsable. Centre-ville, il y a des responsables, Latanier, Saint-Clotilde, etc., etc. Donc si on a terminé, on remet au responsable qui, là, me le remettra, Inch'Allah. Voilà. Et si quelqu'un n'a pas accès à Internet ou quelqu'un n'a pas d'imprimante, ben moi j'ai des formulaires de la voiture, si quelqu'un le veut, on peut en donner. Donc essayons de participer et de faire participer nos mères, nos soeurs, nos pères et nos enfants qui ont plus de 20. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.